Mission, Yoff et Cameren, point de convergence des fidèles laïennes. La RFM s'est déjà déployée sur les lieux et va vous faire vivre les grands instants de cet appel. Délestage à Durbel, la nuit dernière, des manifestants ont pris d'assaut l'agence Sénélec. Au finish, il n'y a pas eu de dégâts et pas de blessés. Les manifestants envisagent toutefois de se faire entendre à nouveau en cas d'autre délestage. À Matam, c'est la mairie qui doit faire face à une fronde des jeunes. Les griefs tournent autour des infrastructures qui sont insuffisantes et de l'absence d'un réseau d'assainissement. Nous entendrons les deux parties dans ce journal. L'industrie chimique du Sénégal à Mboro, les populations et leurs maires déplorent le non-recrutement depuis l'arrivée des Indiens qui ont repris les 10 AS. Autoroute à péage, le tronçon Padoua-Pikine va être payant à la fin de ce mois. Les acteurs concernés réagissent dans ce journal. Vous pourrez suivre la page sport, également Khalam, la revue de presse de Babacar Fall, le journal de l'appel avec Elhadj Ndiogoudiene, à la technique Chérif Diop. Bienvenue à tous. Comme nous le disions tantôt, la communauté laïenne célèbre ce week-end le 131e appel de Seydina l'Imam Oulaye, un événement qui démarre ce samedi et qui va se poursuivre tout le week-end. Mais une équipe de la RFM se trouve déjà sur les lieux et en ligne. Elhadj Ndiogoudiene, bonjour Ndiogou.
Bonjour Makumba.
Alors que vous faites l'état des lieux?
Alors comme vous l'avez dit, l'événement a démarré tout à l'heure vers 10h avec la cérémonie d'ouverture qui se déroule en ce moment à Cambaren et qui est présidée par le porte-parole du Khali général des Laïen. Pour ce qui nous concerne, nous sommes à Yop, Yop où se trouve le domicile du Khali général des Laïen. Et puis pour ce qui est du journal, retenez que tout à l'heure, nous ferons l'ambiance à Yop, où les familles mettent les petits plats dans les grands pour l'accueil des autres. Nous parlerons aussi du thème de cette 131e édition de l'appel de Seydina l'Imam Oulaye. Le thème donc de cette année, une religion de paix, de tolérance et de quiétude. Allusion à l'islam, à la religion musulmane. Nous ferons aussi le point sur la sécurité, car les forces de l'ordre sont très présentes pour cet événement. Ainsi, la gendarmerie a mobilisé près de 400 éléments, des éléments qui veillent à la circulation, à l'escorte du marabout, mais aussi au déploiement des autorités et pèlerins pour une bonne pour la fluidité de la circulation. Le groupement national des sapeurs-pompiers est aussi présent. 112 éléments ont été ainsi mobilisés avec 12 engins et le tout pour assurer le secours et les interventions et la surveillance des plages. Pour l'heure donc, en ce qui concerne le groupement national des sapeurs-pompiers, aucune intervention n'est notée. Si on croit le chargé de la communication du groupement national des sapeurs-pompiers. Après la cérémonie d'ouverture, place donc cet après-midi à Ngor, où se trouve la grotte, qui est aussi un site très symbolique des Laïennes. L'événement en tant que tel, à savoir l'appel, est prévu demain à mi-journée et puis le clou de cet appel, ce sera la cérémonie officielle qui sera un moment de rencontre entre les autorités gouvernementales et la famille de Yoff. Voilà donc mon combat, tout ce qu'on peut retenir en attendant d'y revenir tout à l'heure dans le journal de l'appel.
C'est promis, Elhadj Ndiogoudiene, que nous retrouverons en fin d'édition.
RFM, la radio de toute l'actualité.
À Matam, infrastructure insuffisante, obscurité, inexistante de canalisation. Les jeunes de Matam ont annoncé tous ces griefs contre leur maire, de leur avis. En ce début d'hivernage, ce sont les inondations qui hantent le sommeil des populations. Allez, Bandelian.
Au-delà du retard noté dans l'exécution des grands travaux du gouvernement, Matam est aujourd'hui la capitale régionale la plus noire du pays. Une obscurité qui explique cette insécurité avec des délinquants qui le plus souvent hantent le sommeil. En ce début d'hivernage, la ville est sérieusement menacée par les eaux d'inondation. Une grande inquiétude selon Adama Barry, jeune enseignant de Gourel Serigne.
Matam risque de plonger dans le chaos parce qu'il n'y a pas une volonté manifeste des autorités politiques. La mairie croise les bras. Il y a une absence totale. La municipalité de Matam ferme les yeux sur ce qui se passe durant l'hivernage. Aujourd'hui, Gourel Serigne n'a même pas droit d'une canalisation digne de son nom parce que la mairie n'est pas à la hauteur.
Malgré la réalisation de la première phase de l'assainissement de Soubalo, les jeunes de ce quartier ne manquent pas de reproches et d'accusations sur ce qu'ils appellent l'inexistence d'une politique de développement soutenue par l'équipe municipale. Amadine Si de Medina Gouna, Soubalo.
Ce qu'on attendait à M. le maire et son groupe, on ne l'a pas eu. on nous a déçus. Voilà, c'est bien vrai qu'il y a les canalisations, mais le pompage pose problème. Il y a un problème d'électricité, un arrière-paiement de salaire des millions qui ne sont même pas été payés. Parce que le maire, franchement, nous sommes désolés de le dire, mais le maire n'a pas encore atteint son objectif. Déjà qu'il a déjà fait 2 ans de mandat. Jusqu'à présent, on n'a pas vu quelque chose qui est concret. Même l'électricité pose problème.
Face à cette situation qui suscite aujourd'hui de nombreux commentaires, nous avons tenté de joindre le maire de Matama. Seulement, Mamadou Mori Diaw, pour ne pas le nommer, nous a tout simplement renvoyé au CDD prévu ce lundi sous la présidence du préfet de Matama. Matama, Ali Bandelian, RFM.
Et un proche du maire de Matama qui réagit, Alassane Diko, conseiller municipal de Gorel, qui estime que le démarrage des travaux d'électricité et d'électrification est un démarrage imminent. Il estime également qu'un appui du gouvernement est nécessaire pour régler les questions d'assainissement. Écoutons Alassane Diko.
On l'a vu vraiment mal, mais l'espoir est permis parce que avec le maire Mamadou Mori Diaw, qui a un projet d'électrification avec le PNDL, ce ne sera qu'un mauvais souvenir d'ici peu de temps, dans 1 mois. Parce que le problème des passations de marché public, c'est un peu long, mais le conseil municipal s'y attelle est vraiment au bon fixe par rapport à ça.
Il lui est reproché de ne pas porter la voix de Matama. Les jeunes disent qu'ils n'ont jamais entendu le maire défendre la ville.
Vous savez que le maire, il défend la ville, seulement qu'il n'est pas quelqu'un qui parle aux médias. Il agit en responsable. Il est allé rencontrer le président de la République pour lui parler des problèmes de Matama. Celui-là lui a écouté et a donné des instructions au ministère concerné pour l'assainissement, l'éclairage public pour les stations de pompage qui, dans sous peu de temps, va marcher parce que durant ces dernières années, ça ne marchait pas parce qu'il y avait une facture d'électricité qui était là-bas. Maintenant, le maire en a réglé la moitié.
Oui, il en a réglé la moitié. Est-ce qu'on peut assurer cette année que la station va fonctionner? Et puis, où en êtes-vous avec la deuxième phase qui doit concerner les quartiers des HLM et de Gourasserie?
Inch'Allah, pour les stations de pompage, ça va marcher cette année. Pour la deuxième phase, vraiment, ça, c'est du ressort de l'État. Les mairies n'ont pas les moyens d'assainir leur ville. Et une marche a été faite dans ce sens. Les plus hautes autorités de l'État nous ont entendus et nous avaient promis de le faire jusque-là en vain. Et vraiment, on espère que le ministre Adam Sall saura vraiment et Matama vraiment ne doit pas rester en rade par rapport aux autres communes de ce pays.
Autre chose à Durbel, l'agence de la Sénélec a été la nuit dernière la cible de manifestants. Toutefois, les dégâts ont été mineurs, aucun blessé, il n'y a pas eu d'interpellation. Les manifestants ont promis toutefois de refaire la même chose à la prochaine coupure. Nous parlons de nos compatriotes installés en France. Le collectif des 31 demande le départ du consul général du Sénégal à Paris. Ce collectif est un mouvement créé par des manifestants qui s'étaient signalés devant le consulat du Sénégal à Paris le 22 juin dernier. Le consulat par la suite porté plainte contre les manifestants pour dégradation des biens publics. Une initiative qui dérange le coordonnateur de ce mouvement des 31. Nous l'écoutons, il s'appelle Tamsir Faye.
Nous exigeons le départ du consul général de France parce qu'il s'est mis en contrefaçon par rapport aux intérêts des Sénégalais. Le consul général s'est permis de porter plainte contre des citoyens sénégalais qui venaient simplement manifester le droit. Et nous pensons que c'est une faute majeure qui justifie son limogeage. Il doit définitivement tirer sa révérence, sinon nous continuerons le combat jusqu'à son départ. On va manifester le vendredi prochain devant le consulat. Tant que le consul restera, nous remettrons à chaque fois qu'il en aura besoin pour en tout cas que le droit des Sénégalais ici soit respecté.
Vous exigez son départ et pourtant vous avez dégradé un bâtiment public.
Voyez-vous les milliards qu'on gaspille au Sénégal. Quand Karim Wade affrète des jets privés pour circuler dans le monde entier, voyez-vous cet argent-là qu'on gaspille ne vaut rien par rapport aux quelques tags qu'on a fait au consulat.
12h09, vous suivez la radio Futur Média. Les industries chimiques du Sénégal qui causent du souci aux populations de Mboro, de Darkhoudos et de Taïba Ndiaye, avec le rachat des ICS par les Indiens, les habitants de ces localités déclarent ne plus bénéficier d'emploi. Le maire de Mboro a ainsi dénoncé le recrutement massif de cadres étrangers et d'ouvriers indiens. Cher Antadiop.
Difficile de redresser les industries chimiques du Sénégal, le maire de Mboro tire la sonnette d'alarme. Pour Charles Sen, les populations du département de Tivavone ont ressenti cette crise.
TT a été racheté par les partenaires indiens qui aujourd'hui, tant bien que mal, essaient de manager la société. Mais ce management pose des problèmes puisqu'il y a une entrée massive de population indienne qui occupe aujourd'hui des postes. Ces postes pourraient être occupés par des Sénégalais et particulièrement par les populations du département.
Charles Sen estime pour sa part que le capital des ICS est maintenant entre les mains des Indiens. Et cette situation ne profite toujours pas aux populations de Mboro et localités environnantes, selon le maire.
4-5 ans, aucun recrutement massif, aucun recrutement significatif n'a été opéré dans la localité. Aujourd'hui, il y a de la main-d'œuvre étrangère qui est présente, qui est visible au niveau de Mboro, au niveau de Darokoudos et au niveau de toutes les autres localités. C'est des ouvriers venus de l'extérieur qui travaillent aujourd'hui avec nous. Il y a également un recrutement massif de cadres étrangers qui sont actuellement en train de travailler en doublon avec les cadres sénégalais.
Dans le cadre de leur plan de développement local, les Indiens ont prévu de construire un hôpital, un forage pour les localités de Darokoudos et Taïbanyaï, RFM Thiès, Cherante Diop.
Dans un tout autre domaine, le tronçon Padoua-Pikin sera payant à partir du mois de septembre prochain. Les acteurs du secteur réagissent. Des receveurs et chauffeurs de Tata rencontrés estiment pour certains que cette mesure risque de compliquer les choses. Mais pour d'autres, cela est une chose normale. C'est du Noroba.
Garage de Sam, plus d'une dizaine de cars Tata.
RFM.
Quelques désagréments au niveau de la technique et nous passons tout de suite à la presse toujours passée en revue par Babacar Fall.
Malgré le retrait du projet de loi sur le ticket présidentiel, le débat continue, toujours des révélations, des dessous qui sont révélés donc. À la page 5 de l'Observateur, on lit que le président Ouad avait pensé à un ticket avec Khalifa Sall, le maire socialiste de Dakar. La réaction du secrétaire général du Parti socialiste dans l'Obs, Ousmane Tamar Dieng, déclare que cela est impensable. Mais attention, il se dit que Khalifa Sall est très proche de Karim Ouad, l'Obs le souligne. Le fils du président de la République est à la une du journal Le Quotidien. Karim Ouad, par ailleurs ministre, entre autres, de l'énergie. Eh bien, pour faire face au délestage, Karim Ouad est allé louer des centrales qui ne sont pas adaptées au système de la Sénélec, selon le journal Le Quotidien. Un matériel qu'il est allé chercher aux États-Unis et Karim Ouad l'a loué à, tenez-vous bien, 20 milliards de francs CFA juste pour 18 mois. Alors le drame de cette opération du ministre de l'Énergie, c'est que ces centrales ne marchent pas ici. Elles ne sont pas adaptées au réseau de la Société Nationale d'Électricité alors qu'il les a payées à prix d'or. 20 milliards de francs CFA pour 18 mois. Les émeutes de la semaine dernière contre les coupures d'électricité, Le Soleil annonce que les mairies saccagées seront réparées et rééquipées. Les émeutes contre le projet de loi sur le ticket présidentiel le 23 juin dernier, l'agression contre Ali Ountine ce jour-là, le président de la Rado agressé par des nervis recrutés selon toute vraisemblance par un certain Farba Sangor. À la une de l'As, on apprend que Ali Ountine a activé le procureur. Le doyen du juge est lui aussi à la une de l'As. Le journal L'As révèle que le doyen du juge débute ses auditions la semaine prochaine dans l'affaire Malek Ba, l'homme qui a été tué lors de manifestations à Sangalkam après un découpage administratif de cette localité située à la périphérie de Dakar. La sécurité des Sénégalais, Macky Sall persiste et signe que le pouvoir a recruté 400 mercenaires pour faire face à la furie de la population sénégalaise. 400 mercenaires, selon l'ancien Premier ministre Macky Sall, qui sont entrés au Sénégal par le sud. Dans la presse de ce samedi, le démenti du ministre de l'Intérieur. Les saccages de temples qui appartiennent à des pasteurs évangéliques, ça fait la une du Populaire. Ces pasteurs évangéliques ont organisé une conférence de presse hier. Le Populaire les affiche à sa première page. Les pasteurs évangéliques qui dénoncent les saccages de 7 de leurs temples à Dakar. Et ils accusent les imams et le clergé catholique de haine et de xénophobie. L'actualité est très religieuse ce week-end. Aujourd'hui et demain, la célébration de l'appel de Sayyidina Lima Moulay à Yoff et Camberen. Ça fait la une du matin, qui titre « L'appel de Baïlaï célébré pour la 130e année ». Le matin qui donne rendez-vous à ses lecteurs à ses pages 2 et 4. Et pour nous parler de l'imam Moulay, qui était-il? Le sens de l'appel, la mission, les enseignements. L'actuel khalif de la confrérie Layen est la vedette à la une de l'Observateur ce matin. Les secrets du khalif général de Layen, Abdoulaye Kaoulaye. Tout cela à lire aux pages 8 et 9 de l'Obs. L'Observateur nous parle de l'histoire de Abdoulaye Tchaoulaye avec Sidina Limamou. Le journal révèle aussi que l'actuel patron de la communauté de Layene a fait l'armée en compagnie d'un certain Abdoulaye Wad. L'Obs nous raconte aussi comment Serigne Abdoulaye Tchaoulaye a échappé un jour aux attaques du mouvement des forces démocratiques de Casamance. De la religion à la une de Wolf Grand Place, religion mélangée avec de la lutte traditionnelle, eh bien, ce journal nous informe que Touba se fâche parce que le batteur de Balagaï 2 vient de concocter une nouvelle danse pour le lutteur et ça s'appelle Mouride. Alors il y a une entité à Touba selon Wolf Grand Place, une entité qui s'appelle Safi Natulaman qui avertit Balagaï 2. Le combat du 31 juillet Balagaï 2 Tyson, évoqué à la une de Sunulambe avec Moutou Tyson, le chef de l'écurie Boulfalé, qui a été surpris au monument de la Renaissance il y a quelques jours. On l'avait surpris en train d'escalader les longues marches de ce monument de la Renaissance africaine à Dakar. Alors sans doute pour se mettre à l'abri des regards, Tyson a changé de cadre. Sunulambe écrit que Moutou Tyson a migré vers Malika pour se muscler. La lutte traditionnelle partout dans les journaux de ce samedi, avec deux combats ce week-end. Déjà ce samedi, Sakadior 2 contre Boignang 2. Et demain dimanche, le choc Papa Sow Ness.
Votre revue de presse vous a été offerte par Hertz, numéro 1 mondial de la location de voitures. Hertz, pour de plus beaux voyages.
RFI Sport.
Malal Junior Diagne, bonjour.
Bonjour, Makumba Mbotch.
Nous parlons basketball et nous vivons un samedi de finale à Marie.
Oui, samedi de finale pour la Coupe du Maire de Dakar chez les filles. D'abord avec les Duchesses qui vont tenter d'obtenir un 10e titre dans cette compétition. Ce sera devant une équipe de l'ASSC Bop qui cherche toujours un premier succès dans cette compétition. Chez les garçons, Mermoz défie l'AS Douane, une finale qui promet un beau spectacle selon les spécialistes. Du côté de la Ligue, tout est fin prêt pour une bonne organisation. Il est également prévu de rendre hommage aux anciens présidents de la Ligue de Dakar. Atouman Gueye est l'actuel président de cette même Ligue.
La Ligue est fin prête pour organiser ces deux finales, mais à savoir Bob va jouer contre le Duc en fille, Mermoz qui va recevoir la Douane. Je pense qu'on ne pourrait pas trouver ces deux meilleures finales, et à savoir pratiquement ces trois équipes sont déjà au play-off. On aura les deux meilleures finales de cette année-ci au niveau régional. Mais il est prévu d'abord, je pense, de récompenser les anciens présidents, quand de clôture, vraiment pour récompenser des personnes qui ont toujours aidé la Ligue de Dakar, mais le président Wagan à qui vraiment nous tirons le chapeau, qui a été un grand président de la Ligue Dakar, et à savoir une personne comme Dibokor Sen, qui a été une personnalité au niveau de cette Ligue régionale.
Football. Nous parlons football avec le début de la 20e journée de la Ligue 1. Trois matchs sont prévus.
Tout d'abord à 16h à Demba Diop, la GIA, lanterne rouge qui reçoit Yaka, qui avait été battu à l'occasion de la 19e journée par la Linger sur cette terre, 1-0. À 18h, c'est l'Eslem, avant-dernière, qui reçoit le Duc, 3e au classement. Et à Mbour, l'éléphant de Touré-Kunda va recevoir le leader, l'Union sportive de Wakam, qui va tenter de conforter sa première place par un point du nul. Coupe, il faut voir toujours, match retour de cette première phase. Niaritali est en Gambie. Les joueurs de Niaritali défient Gamtel. Il faut obligatoirement gagner, obtenir un match nul avec score pour passer au prochain tour.
La Copa América maintenant, l'Argentine ouvre le bal à 0h face à la Bolivie.
C'était donc hier, selon les informations, et la rencontre s'est jouée Makumba Mbotch. L'Argentine-Bolivie se sont séparés sur un score de parité, 1-0. C'est donc la relance qui nous a induit en erreur. Et rappelons que l'Argentine a joué avec Lionel Messi, mais avec un système appelé le 4-4-3. Les spécialistes argentins ont critiqué le choix de l'entraîneur. Pour eux, l'entraîneur doit mettre en place des schémas qui permettent à Messi de laisser donc son génie éclore afin que l'équipe puisse gagner. La seconde rencontre va opposer la Colombie à l'équipe de Costa Rica. Et ce dimanche, c'est le Brésil hyper favori de cette compétition qui entre dans la danse en déviant l'équipe de Venezuela.
Et Messi n'a pas marqué?
Non du tout, c'est Kun Agüero qui a égalisé pour l'Argentine.
Hors de Barcelone, Messi est peut-être moins...
Parce que les schémas ne sont pas les mêmes.
Ils sont pas les mêmes.
Voilà.
Et nous parlons de lutte avec frappe pour finir.
Et là, il n'y a pas de schéma, il faut cogner fort pour gagner. Et c'est ce qu'a compris Aziz Ndiaye, il a mis aujourd'hui aux prises deux punchers Il s'agit de Sakadior numéro 2 de l'écurie de Morfadam qui sera face à Boignan de l'école de lutte Boignan. Un combat prévu à Ibmar Diop qui promet, selon Ibakan, qui est un spécialiste de la lutte et qui travaille au journal Sunilamb.
Je pense que le promoteur Aziz Ngaï a fait une très bonne affaire en organisant le combat qui va opposer cet après-midi. Aux alentours de 17h, le combat Sakadior 2 de l'école de lutte Morfadam et Boignan 2 de l'école de Gaulle. Donc on va vers un combat très équilibré entre deux espoirs qui veulent gravir les échelons. Sakadior 2, lui, il vise loin, il l'a toujours dit, il veut que les chances le connaissent, il veut frapper un grand coup cette saison. Et pour frapper un grand coup cette saison, il doit battre absolument sa Boignan de Pékin. Ce dernier qui relève d'une belle victoire contre Dolph la fois passée a l'ambition lui aussi de frapper un grand coup en terrassant Sakadior 2, ce qui lui va lui permettre d'exploser et d'inscrire son nom parmi les espoirs les plus cotés de la lutte sénégalaise. Donc pour ce combat, je pense qu'il n'y aura pas de round. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, on s'attend à un combat où les deux protagonistes vont se donner tout ce qu'ils ont dans le cœur pour remporter la victoire. Mais attention à Sakadior 2 qui est un lutteur très technique, il faut le dire, et aussi qui est très lourd. Mais il a en face de lui un espoir qui a la jeunesse. Il faut que Sakadior 2 évite le cahaval de Boignan 2 parce qu'il est très fort là-dessus. Donc on va vers un combat très équilibré où la moindre faute sera payée cash entre Sakadior 2
et Boignan 2.